ce chemin intérieur, on dit souvent que c'est le chemin du cœur. C'est vrai que l'expression de la sagesse sur la terre, c'est le service à autrui. Lorsque nous sommes préoccupés par nous-mêmes, lorsqu'il y a souffrance, nous pouvons sentir comment il y a une fermeture, une fixation conceptuelle liée à une émergence, une souffrance émotionnelle ou physique, et peu de disponibilité pour autrui. C'est le karma. C'est pour ça que tout ce chemin, c'est un chemin de purification du karma. Et quand le Bouddha dit qu'il y a une manière qui moi m'a beaucoup aidé à bien me lier, à bien concevoir et à bien recevoir la douleur physique, c'est quand le Bouddha dit que toute douleur physique est le résultat d'un karma passé. Peut-être loin dans le passé. Ça donne un sens de la responsabilité. Et plutôt que de se plaindre ou blâmer l'injustice ou accepter qu'il y a une forme de loi de cause et d'effet. Mystérieuse. Donc lorsque nous n'avons aucune disponibilité, c'est que nous sommes préoccupés par nous-mêmes. Et dans les cinq khandas, je l'ai déjà dit, je le répète, nous voyons comment le contact crée l'émotion, ou plutôt la contraction physique. L'émotion est la représentation, et ça, c'est du karma passé. Nous ne pouvons rien là-dessus. Si je vois quelqu'un et puis que ça engendre une réaction de distance ou de rejet, c'est comme ça. Il n'y a personne qui m'a demandé que ce soit comme ça, mais c'est comme ça. Et les perceptions qui accompagnent, qui sont des perceptions de menace ou de... colère vont avec. Et sur cette base, si l'esprit n'est pas entraîné, nous allons construire. C'est comme si le contact tourne la clé de contact, que le moteur se met en marche et que le bolide part, en gros. Et quand le bolide part, c'est du karma futur. Nous créons à travers ce processus. Et qui est-ce qui crée ? Moi. C'est ce qu'on appelle moi. Alors, s'il n'y a pas de fautif, il y a bien une cause et un responsable à l'émotion perturbatrice, et une seule personne capable de se libérer, c'est moi. C'est pour ça que moi est tellement précieux, très précieux. Et l'autre, ou la situation, où c'est toujours rien qu'un petit déclencheur, que nous pouvons remercier parce qu'il nous permet d'approfondir notre liberté. Et derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a là derrière tout ça? En fait, si on regarde bien, il y a un manque de plénitude. il y a un manque de sentiment d'appartenance, un manque d'amour, un manque d'unification, de détente. C'est pour ça que le Bouddha parle du moi comme quelque chose de très précieux, parce qu'il dit « Celui qui s'aime lui-même ne blessera jamais autrui. » Donc c'est un chemin avec le cœur, c'est un chemin d'amour qui fait que peu à peu, nous pouvons lâcher toutes ces déformations réactives et limitées, apeurées. Et je trouve très beau parce que Maître Eckhart, c'est un mystique rénan du 14e, je crois, qui est, je trouve, dans sa manière de définir la mystique ou la spiritualité, très proche du bouddhisme. Dans un passage de ses sermons, il dit « Si tu t'aimes toi-même, tu aimes tous les hommes comme toi-même. » Donc il y a un seul homme que tu aimes moins que toi-même, tu ne t'es jamais vraiment aimé toi-même. Car tu ne t'aimes pas vraiment toi-même si tu n'aimes pas tous les hommes comme toi-même. Tous les hommes ont un seul homme, ont cet homme qui est Dieu et homme. Celui-là seul est droit, qui s'aime lui-même et qui aime tous les hommes comme lui-même. Celui-là est vraiment droit. Dans l'exercice de la méditation, nous travaillons cette nature humaine. Ce n'est pas moi que je libère. Il n'y a pas de moi qui est libéré. Nous nous retrouvons dans le non-moi, on pourrait dire. Et ça, c'est l'amour. Et le vide existentiel majeur qui est inconscient, qui est engendré par ce manque fondamental, cherche à combler à l'extérieur ce qu'il n'arrive pas à s'offrir lui-même. Et ça engendre toute la souffrance du monde, les guerres, les égoïsmes, les famine, les luttes dans les familles, les problèmes, les jalousies, c'est pathétique, l'avidité n'a pas de fin. Et ce qui est pathétique, c'est que c'est très facile à voir chez l'autre, mais chez nous-mêmes, c'est plus difficile. J'aime bien quand Daniel Balavoine dit « Il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête. » Nous sommes aveuglés, c'est comme si nous avions le soleil dans les yeux. Nous sommes aveuglés par le besoin d'avoir, la peur de perdre. Et c'est vain, c'est ça qu'on appelle la vanité. Nous nous trompons de cible. Le samsara, c'est le samsara qui tourne sans fin. Compassion. Donc avec la méditation, nous vidons quelque chose et nous nous laissons remplir d'autres choses. Et ce que nous vidons, c'est l'ignorance. Et l'ignorance, c'est essentiellement cette avidité, je vais avoir, je vais garder, et ce rejet, ouf, surtout pas ça, surtout pas ça. C'est dans l'instant quelque chose qui nous met face à un manque total. Et en même temps, nous nous laissons remplir. Et c'est ça que j'aimerais développer ce soir, c'est cette ces qualités du cœur, d'empathie, de compassion, d'appréciation d'autrui, de joie altruiste et d'équanimité. Nous pouvons aider beaucoup ce plein d'amour à se matérialiser ou s'incarner à l'intérieur de nous-mêmes. Et en faisant ça, nous passons du samsara, de ce monde de fou. Là, on peut vraiment pas plus voiler la face si on a pu un petit peu, il y a peut-être 30 ans, 40 ans, encore que. Là, aujourd'hui, c'est vraiment difficile. C'est un monde de fou. Le monde de la comparaison, de la compétition, de l'attachement au groupe social, ethnique, racial. Moi, nous. Passer de ce monde ordinaire à la conscience pure, au nirvana, à la libération. Passer, on pourrait dire, les chrétiens diraient, passer de moi au Christ en moi. C'est ce diamant qui est au cœur de chaque être et que nous avons tellement de peine à contacter, aussi parce que nous sommes des êtres sociaux et que nous ne sommes pas tellement aidés dans le monde. Cultiver le chemin du cœur. Le premier aspect, c'est l'empathie. Être juste en empathie. Et au fond, c'est ce que nous faisons complètement lorsque nous vénérons l'instant. Juste maintenant. Le corps est là. Il y a le silence, la présence des autres. La respiration. Et s'il y a une émergence de quelque chose, une ouverture, une empathie, entrer en amitié. Même si ce n'est pas droit ce que j'aimerais bien rencontrer. Et ainsi, on peut dire que chaque goutte de présence est de la bienveillance. Chaque fois que je suis là, même s'il n'y a pas tellement de bienveillance, mais je suis là, quelque chose fait le plein. Il y a cette bonne volonté, il y a cette intention. J'ai l'intention de cultiver quelque chose en moi. Parfois, au début, nous sommes un peu durs avec nous-mêmes. La manière avec laquelle nous nous observons, nous accueillons ce qui se vit à l'intérieur, n'est pas totalement confiante. Il y a une certaine méfiance, le cœur est un petit peu ouvert mais pas trop. C'est comme si c'était un peu rigidifié. Et peu à peu, sous l'effet de la répétition, du travail, on se donne au dharma, cette glace commence à devenir molle. Est de plus en plus liquide et clair. Quelque chose fond. Mais pour ça, c'est important de partir d'où nous en sommes, dans cette authenticité. Je me souviens quand j'ai commencé à méditer, Michel McDonald était super, qui me disait, je me plaignais, je lui disais, mais tu comprends, je suis tellement dur. Il me disait, ah, mais tu dis ma petite dureté. Alors j'ai beaucoup dit petite dureté. Donc cet authentisme, il demande de ne pas confondre l'éthique, où nous devons vraiment mettre toute notre force pour faire le bien et éviter de faire le mal, est l'instant où il faut lâcher cette histoire. À la version, c'est mal, je ne veux pas aller là. À la dureté, c'est mal, surtout pas voir. Ou la peur, ou non, la peur, moi je dois être courageuse. Ça ne marche pas de faire ça. Quelquefois, oui, la sagesse peut nous dire c'est trop, tu ne vas pas là. Mais à terme, parce que nous cultivons la concentration, la bougie est suffisamment formée pour que la flamme éclaire et que nous puissions ouvrir. Et bien sûr, le corps présent est un garant très important. Quand je parle de l'empathie, je vais vous relire de nouveau ces tellement jolies paroles. Des enfants qui demandent à Dieu leur... Nous aussi, des fois, on demande à Dieu. Mais là, c'est des enfants, ils demandent à Dieu. Ils sont tellement authentiques et purs dans leur demande, je trouve très beau. Alors, il y a un petit Mathieu qui dit « Cher Dieu, merci de m'avoir donné un petit frère, mais tu n'as pas bien écouté mes prières. J'avais demandé un petit chien. » Et puis Marc dit, s'il te plaît, cette année, cher Dieu, peux-tu envoyer Mylène Redier dans une autre colonie de vacances? Merci d'avance. Et puis Caroline qui dit, ça doit être dur pour toi, cher Dieu, d'aimer les gens du monde entier. Chez nous, on est quatre. Et je n'y arrive pas. Et puis, un autre petit Florian qui dit, « Cher Dieu, peux-tu éviter que je sois en classe avec Marc Pictet parce que je le déteste ?» Et puis, encore un petit qui dit, « Cher Dieu, peut-être que Cain n'aurait pas tué Abel s'ils avaient eu chacun leur chambre. Avec mon frère, ça marche. » Dans ce travail lié à l'empathie, il y a le méta-directif. Nous pouvons beaucoup pratiquer ces phrases qui nous offrent la bienveillance, qui nous offrent des choses très simples. De quoi est-ce que j'ai envie d'être rempli de manière très concrète? Et de quoi est-ce que j'ai envie d'être libéré? Et simplement de le dire, de le répéter, nous sommes programmés pour la compétition et l'inquiétude et chacun pour soi. Et quand nous faisons ça, ça reprogramme toutes les cellules dans quelque chose qui est très bienfaisant, qui amène cette qualité de plénitude. Et il n'y a pas besoin de se sentir dans la bienveillance pour dire ces phrases. Quelquefois, je me dis, ok, je vais faire du méta. Non, on va abandonner. Ça ne fait rien. On n'a pas besoin de croire à toutes nos perceptions, ce ne sont que des perceptions. Mais comme exercice, nous pouvons le faire. Et ça a un effet. C'est tout à fait empirique. Donc, nous disons ces phrases et ça développe d'une part la concentration d'une manière très, très puissante et d'autre part, ça change la texture des cellules, quelque chose qui est très profond. L'empathie, elle peut être employée comme moyen habile, quand l'expérience est relativement neutre, agréable ou un peu désagréable. Mais quand l'expérience devient vraiment douloureuse, que ce soit pour moi ou pour un autre, c'est la compassion qui fait sens Souvent, nous ne pourrons juste pas être dans l'empathie. La compassion, c'est le cœur qui s'ouvre à la souffrance d'autrui et à la mienne. C'est une sensibilité à la souffrance plutôt qu'une pitié ou qu'une peur. Il y a différents aspects à la compassion. Le premier, c'est l'aspect de la tendresse, c'est celui ce qui console, ce qui entoure, ce qui écoute, ce qui protège, ce qui pardonne. La bonne mère ou le bon père, les bras qui sont tellement bienfaisants lorsque nous avons mal. Et nous pouvons sentir combien c'est bienfaisant lorsque nous le recevons et aussi lorsque nous le donnons. Et c'est pas si facile. Je suis sensible à la peine de l'autre. Je m'ouvre plutôt que d'être submergée. Le deuxième aspect, c'est de la compassion, c'est l'aspect de la puissance. La compassion, ça n'est pas quelque chose de gentillet. La souffrance demande une grande force intérieure, une prise de position. La non-violence, c'est quelque chose qui est profond, dans le sens d'être debout face à la souffrance. De ne pas ni se résigner, ni succomber, ni fuir, ni agresser, mais d'être là, puissant. Il y a cette petite histoire d'un monastère où des bandits sont venus semer le chaos, ils sont tous arrivés avec on va dire que c'était dans l'ancien temps, c'est un peu plus rigolo que les Kalachnikov. Ils sont arrivés avec leur épée, et puis tous les moines sont partis en courant, c'était la débandade, puis il y a juste un petit moine qui est resté assis à sa place, tranquille. Puis à un moment donné, le chef des bandits est arrivé devant lui, puis il a dit, moi je suis celui qui peut te couper la tête sans cligner des yeux. Puis le petit moine lui a dit, ah ouais, ben moi je suis celui qui peut se laisser couper la tête sans cligner des yeux. Et il a dit que le grand bandit a baissé son épée et puis qu'il a fait signe à ses compagnons de se retirer. C'est cette force de la puissance de la compassion qui est une force non violente et qui touche l'autre. Et puis l'autre aspect, c'est nous n'avons pas besoin toujours d'abonder dans le drame. Parce que quelquefois nous souffrons beaucoup, mais pour des choses qui sont quand même pas si terribles. Et un tout petit peu de légèreté, d'humour, de non-attachement, juste pas trop y croire. L'autre jour, j'habite avec une copine maintenant qui a pris l'appartement d'en haut. Puis l'autre jour, je venais, j'avais une histoire dans la famille, et puis je me plaignais, puis je lui disais comme c'était dur, tout ça. Puis elle me regardait avec un air, vraiment de me prendre pour une vraie conne. Puis d'abord, ça m'a fait un choc, je me suis dit, mais mince, moi j'aurais besoin d'être écoutée, quand même, je souffre. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, non mais c'est vrai, mais arrête, quoi, c'est bon. Mais ça paraissait très vrai. On fait vite une montagne d'une taupinière. Hein. Et le dernier aspect, qui est un aspect essentiel de la compassion, c'est l'engagement. Nous ne venons pas sur le coussin pour rentrer chez nous et retrouver notre petit confort au point de départ. Le confort est dangereux d'une certaine manière. L'engagement, le service à autrui, la manifestation de notre solidarité et de notre fraternité. J'avais copié un bout du bouquin de Mandela qui s'appelle « Un long chemin vers la liberté ». Ça m'a fait pleurer quand je le lisais, alors je vous le lis un petit bout. C'est un peu long, mais tant pis. Mon pays est riche en minerais et en pierres précieuses, enfouies dans son sol. Mais j'ai toujours su que sa plus grande richesse était son peuple, plus fin, plus pur que ses diamants les plus purs. C'est auprès de ses camarades que j'ai appris dans la lutte le sens du courage. Je n'ai cessé de voir des hommes et des femmes risquer et donner leur vie pour une idée. J'ai vu des hommes supporter des brutalités sans craquer, en montrant une force et une résistance qui défient l'imagination. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Moi aussi, j'ai ressenti la peur plus que je ne peux m'en souvenir, mais je l'ai dissimulée derrière le masque de l'audace. Je n'ai jamais perdu l'espoir que cette grande transformation aurait lieu. Non seulement grâce aux héros que j'ai cités, mais grâce aux hommes et aux femmes ordinaires de mon pays. J'ai toujours su qu'au plus profond du cœur de l'homme résidaient la miséricorde et la générosité. Personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau ou de son passé ou de sa religion. Les gens doivent apprendre à haïr, et s'ils peuvent apprendre à haïr, on peut leur enseigner aussi à aimer, car l'amour naît plus naturellement dans le cœur de l'homme que la haine. Même au pire moment de la prison, quand mes camarades et moi étions à bout, j'ai toujours aperçu une lueur d'humanité chez un des gardiens, pendant une seconde peut-être, mais cela suffisait à me rassurer et à me permettre de continuer. La bonté de l'homme est une flamme qu'on peut cacher, mais qu'on ne peut jamais éteindre. Quand j'ai franchi les portes, je n'ai pas plus de vertu ni d'abnégation qu'un autre, mais j'ai découvert que je ne pouvais pas profiter des pauvres libertés limitées qu'on m'autorisait, alors que je savais que mon peuple n'était pas libre. La liberté est indivisible, les chaînes que portait un de mes compatriotes, tous les portaient. Les chaînes que tous portaient, je les portais. C'est au cours de ces longues années solitaires que la fin de liberté pour mon peuple est devenue fin de liberté pour tous, blancs et noirs. Je savais parfaitement que l'oppresseur doit être libéré, tout autant que l'oppressé. Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine. Il est enfermé derrière les barreaux des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté, tout comme je ne suis pas libre si on me prive de ma liberté. L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. Excusez-moi. Quand j'ai franchi les portes de la prison, telle était ma mission, libérer à la fois l'opprimé et l'oppresseur. Certains disent que ce but est atteint, mais je sais que ce n'est pas le cas. La vérité, c'est que nous ne sommes pas encore libres. Nous avons seulement atteint la liberté d'être libres, le droit de ne pas être opprimé. Nous n'avons pas encore fait le dernier pas de notre voyage. Nous n'avons fait que le premier pas sur une route plus longue et difficile.
C'est beau, hein. Faufile long le voyage. Et puis, il y a la joie altruiste. Lorsque le cœur se remplit, qu'il est moins obnubilé par ses manques, il y a une absence de comparaison, de jalousie, de mépris, du besoin d'être plus, ou de la peur d'être beaucoup. Toutes ces peurs relationnelles. Et nous pouvons ouvrir à la joie des autres et à la nôtre une qualité de gratitude, d'appréciation. Cette perception d'une grande fraternité relationnelle, de cette quête de bonheur qui est vouée à l'échec si on la cherche à l'extérieur et dans laquelle nous sommes tous, et qu'il est tellement important de pouvoir dépasser, aller au-delà dans la grande libération interrelationnelle. Et bien sûr, cette joie altruiste, ça n'est pas un idéal. Je vais me dire, oh là là, moi j'ai pas de joie altruiste, c'est horrible. C'est vraiment quelque chose à reconnaître. Et oui, quelquefois il y a ça à l'intérieur de moi. Je le sens, c'est là. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce qu'il y a une grandeur à pouvoir nous ouvrir totalement aux autres sans retenue. Et ça n'est pas un trait de personnalité. Il y a des personnalités très charismatiques, très rigolotes, gaies, sympathiques, joyeuses. Mais c'est autre chose. Il y a ces images de maîtres un peu féroces, mais qui ont une énorme joie altruiste. Le dialogue conscient nous aide à mieux comprendre combien l'autre est pour être moi. Mieux comprendre combien nous sommes tous uniques, différents, limités, et combien nous sommes tous porteurs de cette même quête, avec une couche plus ou moins épaisse de protection, d'aveuglement. Mais l'élan premier est le même. Que je sois bien, que je me sente plein, pleine. Et lorsque nous pratiquons le dialogue conscient, nous pouvons plus ou moins, peu à peu, bien sentir comment ben, l'autre, il a son karma, quoi. Il est, comme moi. Franchement, qu'est-ce qui fait que je suis moi, puis pas toi? C'est quand même drôle. En tout cas, moi, je n'ai pas demandé à être moi. Le dernier aspect, l'équanimité, c'est cette rencontre entre l'ouverture du cœur qui n'a pas peur de la souffrance, mais qui la comprend, qui l'embrasse. Et cet autre côté où l'autre ne peut pas me mettre à l'étroit au niveau de la comparaison, de la jalousie, ou l'autre est, je suis dans la joie pour tout ce qui va bien. J'apprécie l'autre dans ce qu'il est. Et la sagesse. La sagesse qui est lâcher prise. Dans l'équanimité, il y a beaucoup de compréhension qui accompagne cette qualité du cœur. Il y a la compréhension du karma. Le karma, c'est une pensée, c'est rien qu'une pensée, qui devient sagesse si je peux en faire quelque chose pour m'ouvrir dans l'instant. Moi, ça m'aide beaucoup, cette notion du karma, à ne pas voir l'autre uniquement dans sa personnalité de cette incarnation. Et avoir toutes ces attirances, nous avons des attirances avec certaines personnes, des difficultés avec d'autres. Il y a des gens qui, on a vraiment l'impression qu'ils sont sur notre planète, quoi. Et quand on se rencontre, ça fait boum.
Ok, j'accepte.
C'est pas qu'il... que je fasse une faute ou que l'autre fasse une faute. C'est qu'il y a du karma qui se rencontre. Et sagement, ben, je ne vais pas les mettre là. Je n'ai pas besoin d'aller les mettre là. C'est Ajahn Sumedho qui disait, on n'a pas besoin d'aimer tout le monde. Mais il n'y a pas besoin de réagir à cette incapacité d'harmonie totale relationnelle. Il n'y a pas d'harmonie totale relationnelle. Mais il y a une compréhension du karma qui fait que même si l'autre est dans des attitudes totalement incompréhensibles, injustifiables, injustes, je peux dire c'est ok. Ça fait partie d'une cohérence qui m'échappe. Et c'est pas à moi de... vouloir contrôler le monde. En tout cas, si je veux le faire, je peux regarder le résultat. C'est pas très aidant. On pourrait dire que l'équanimité, c'est cette compréhension du mystère du qui suis-je. Don't know mind. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je fais ma part. Humblement. Les choses sont ce qu'elles sont. C'est Ajahn Suchito qui disait si tu as l'impression que tu n'as rien à faire, ça s'appelle la paresse. Si tu as l'impression que tu dois faire quelque chose, ça s'appelle l'agitation. Si tu as l'impression, je ne sais pas si je vais tout me souvenir, si tu as l'impression que tu as manqué à faire quelque chose, ça s'appelle la culpabilité. Enfin bref, il va comme ça, puis il dit, puis après il dit, peu importe laquelle vous avez, de toute façon, il faut bien en avoir une. Les choses sont ce qu'elles sont. En moi, en toi, dans le monde. Et avec l'équanimité, l'énergie, c'est de dire ok. Après, il y a l'engagement. Mais un engagement avec une énergie qui dit « ok », c'est un engagement qui est porteur de libération. Autrement, c'est ces engagements politiques, polémiques, insupportables. Hein, où je veux gagner, où je veux... pénible, en tout cas pour moi. J'ai reçu une petite parole d'une amie, comme j'ai
l'avantage de pouvoir avoir Internet. Elle m'a envoyé une petite parole et je trouve qu'elle est très belle. Elle est en allemand, alors je l'ai traduite, qui disait « Rare est la grande âme qui ne veut rien, ni la joie du monde, ni sa libération. » Ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que je passe mon temps à faire du tangling pour le monde. Je prends la souffrance du monde, je donne la libération. Puis tout d'un coup, je me disais, mais c'est encore de la vanité. C'est encore de la vanité. C'est OK. Rare est la grande âme qui ne veut rien, ni la joie du monde, ni sa libération. Ça n'empêche pas l'engagement. Ça le rend plus grand. Un moment en silence.
Thank you.